19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah là là, quel plaisir de vous retrouver, chers amis. Oh, on est vendredi, on s'installe tranquillement pour vous emmener en week-end. Vous le savez, ce week-end qui s'annonce ensoleillé. Mais il est déjà ensoleillé. Clochette. Oh oh. J'aime les clochettes, moi, ici. À chaque fois, il y a un truc, vous allez voir, il y a clochette. Allez, au sommaire, pour vous embarquer, justement, dans les informés, durant une heure jusqu'à 20h précisément. Nous sommes ensemble. Tout d'abord, un invité sera avec nous de marque, de taille. C'est Jal, Jal l'humoriste, qu'on kiffe ici, vous savez quoi. Il viendra nous parler d'une belle cause noble, ici même, dans les informés. Ensuite, à 19h30, Michel Taube, l'éditorialiste, le patron d'Opinion Internationale, viendra nous livrer, comme chaque vendredi, dans le Quoi de Neuf. Eh bien, son regard concernant l'actualité, mais notamment, que fait Macron depuis un mois? C'est son billet d'humeur. Les débatteurs influenceurs. Aïe, Fawzi Lelouch, le retour, qui est avec nous. Et c'est un plaisir de le recevoir, bien sûr. Maître David Liveskind, qui ne mâche pas son mot, bien sûr. Et ensuite, Ahmed Chriat, notamment, qui viendront livrer leurs trois regards différents qu'on confrontera justement autour de trois sujets d'actualité. Alors le premier, Elisabeth Borne, la première ministre, elle parle de pouvoir d'achat, de climat, je parle doucement, de santé. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Clochette! Aïe! Ah bah bon, en tout cas, on va tenter de vous faire retenir quelque chose. Ça, c'est sûr. Autre sujet, l'indigéniste, l'immigrationniste, le wokisme. Non, je vais arrêter là parce que sinon ça va vous effrayer, les amis. Clochette. Ça, c'est pas Pandey qui visait. Visé par qui? Double clochette! Par l'extrême droite! Ça suffit l'extrême droite, hein? Attention! Non, mais sérieux, franchement, les amis, laissez-le! Laissez-le d'abord prouver ce qu'il a dans le corps et ensuite on verra. Dans le corps, évidemment, je parle de teneur, de consistance, de corps. Voilà, vous m'avez compris. Allez, c'est parti les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais. Ça devient rare d'ailleurs, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'interview, l'invité pour démarrer ce week-end, c'est parti.
Monte un peu. Les informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec l'humoriste de taille de renom, celui qu'on kiffe ici, Jal. Bonsoir mon cher Jal.
Salut Adil, salut Beurre FM.
Mais comment ça va? Quel plaisir de vous. Quel plaisir de vous entendre, Jal. Vous êtes avec nous ici même dans Les Informés pour parler notamment, non pas d'un spectacle, si, d'un spectacle, mais qui a une consonance un peu particulière. Elle prend une tournure d'une belle cause. Jal, pour quelle raison vous avez décidé de faire un spectacle pour une cause noble et laquelle?
Ben, en fait, c'est un spectacle qu'on va jouer ce dimanche 29 à 17h à l'Apollo Théâtre que je vais jouer. C'est un spectacle Andalija qui s'adresse, voilà, à la communauté marocaine, maghrébine. C'est un spectacle que je joue uniquement à l'étranger. Ben, je vais le jouer pour cette occasion pour l'association Keep Smiling qui s'occupe des enfants des rues à Marrakech, oui, et dans sa région. Et ça sera pour la construction d'une crèche.
Oui. Voilà, c'est pour une. C'est une belle cause, hein.
Exactement, et c'est une cause qui me tient à cœur et c'est un spectacle que j'ai décidé dans les 10 derniers jours du Ramadan en me disant toutes les bonnes actions qu'on pouvait faire.
J'allais vous poser la question, voilà. Jal, quelle tournure, justement, comment il est arrivé ce spectacle pour cette cause en direction des enfants de la rue? Comment ça s'est fait, justement, comment ça a émergé?
Bah, ça a émergé sur les 10 derniers jours du Ramadan et on sait à quel point c'est important pour nous et on cherche à faire le maximum de bonnes actions et je me suis dit comment je pouvais assez rapidement aider le maximum d'associations. Il y avait cette association pour qui j'avais déjà fait des événements ici en France et au Maroc et je me suis dit allez faisons mon spectacle en Andalija, ce sera l'occasion voilà de faire une belle fête aux couleurs du Maroc et du Maghreb et à la fois à apporter l'utile et le bénéfice de toute la recette à cette belle et grande association et donc voilà, c'est parti d'un mouvement du cœur, une prise de conscience qu'il fallait essayer de faire le maximum et à ma manière j'essaye par le rire et par cette action, ben voilà, apporter un peu de bonheur, un peu de joie au public et aussi le public participe à apporter justement par les bénéfices de cette action de cet événement, et ben il servira justement à aider des enfants qui en ont vraiment besoin, qui sont totalement démunis et orphelins pour la grande majorité d'entre eux.
Et effectivement. Quelle cause? On peut le dire effectivement. Djal, on l'aura compris, c'est l'association Keep Smiling donc cette représentation inédite, un peu exceptionnelle d'ailleurs. Hein.
C'est totalement inédit. Il fallait faire un spectacle. Malheureusement, pour des questions de droit, je ne pouvais pas faire mon spectacle français. Donc, il fallait tout de suite.
Est-ce qu'il y a quelques surprises? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donner envie à celles et ceux qui vous écoutent? Est-ce qu'il va y avoir émotion particulière?
Non, l'émotion, j'ai jamais été autant de pression qu'à chaque fois que quand je fais un événement associatif, parce que je veux tellement que ça marche, je veux tellement qu'ils aient le maximum de dons, le maximum de participants. Que ça vous met une pression. Et le seul truc, c'est qu'on va faire une grande fête. J'ai demandé à ce qu'il y ait des Dakamarakshia, que les gens viennent en famille. C'est pour ça qu'on l'a fait à 17h. Je voulais que ce soit une grande fête, qu'on rigole. Et je crois qu'on en avait besoin après ces deux ans de confinement. Le Maroc a été confiné, l'Algérie, un peu partout. Et donc, on a peut-être besoin de se retrouver. Après ces élections aussi, il avait aussi besoin de se retrouver avec ma communauté et cette communauté qui est partie intégrante de la France. Voilà, de rire et de rire. Voilà, de notre diversité, de notre richesse qui sont nos origines. Donc voilà, c'est un spectacle, voilà, totalement, même si je dis l'Andalija, il est aussi universel parce qu'il parle avec le cœur, il parle, c'est un spectacle qui est adressé aux familles et voilà, que vous dire que je suis excité, aussi à la fois anxieux parce que je vais essayer de donner le maximum comme d'habitude, mais ce que je garantis, c'est du rire, de la joie et du partage, et ça, vous pouvez me faire confiance là-dessus.
Si j'ai bien compris, ce spectacle, c'est aussi l'acquisition d'un local qui est dédié à ces enfants de la rue, mais aussi une crèche solidaire pour ces petits, pour les petits, hein.
C'est ça, exactement, c'est ça. Donc, voilà, et c'est génial parce qu'ils ne s'y attendaient pas, cette association. Et puis quand j'ai appelé le président, que je connais très bien, j'ai dit, écoute, on a monté assez rapidement, hein. Faut dire que ça a été assez rapidement pour la promo. Voilà, on fait tout un peu dans la précipitation, mais avec des gens compétents et surtout qui ont vraiment envie de faire de cet événement un succès. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère qu'on fera complet. On est pratiquement complet, mais j'espère que les dernières.
Eh bien, il faut que ce soir, vous parveniez ou vous parvenez tout simplement à ce que cela soit complet dès ce soir. Alors, justement, cette belle cause, Djal, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui aujourd'hui veulent venir? Je crois que ça se passe à l'Apollo Théâtre. Vous leur dites quoi en une phrase?
Je leur dis, venez avec votre cœur et on va le remplir d'amour et de rire. Voilà, venez avec le cœur et voilà. Et je vous garantis que je vais tout donner, que j'ai envie de m'amuser.
Exceptionnellement, on peut le dire aux auditeurs, c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on fait gagner des places ou pas? Et puis, finalement, naturellement d'ailleurs, les choses se sont d'elles-mêmes, c'est que, bon, on ne peut pas faire gagner des places parce que c'est une cause noble.
C'est ça. Il faut savoir que cet argent, elle ne va ni dans mes poches, ni dans les poches du théâtre, elle va directement pour ses enfants. Et voilà, je vous le dis avec honnêteté, sincérité. Cette idée m'est venue sur les 10 derniers jours du Ramadan et on sait à quel point c'est important cette période-là. Parce que
effectivement, en gros, si vous venez, payer votre place et aussi aider cette association pour les enfants de la rue.
C'est surtout ça.
C'est le plus important.
Exactement. Et je vous garantis que je vais tout donner pour que ce soit une belle et grande fête et qu'on s'amuse.
Les chers amis auditeurs, si vous nous écoutez ce soir et vous êtes très très nombreux, justement, faites en sorte à ce que le compteur soit complet ce soir. Donc, c'est les billets, on les achète où?
Ouais, directement à l'Apollo Théâtre.
Sur le site.
Sur leur site et vous trouverez les places sans aucun problème. Ou bien vous avez un lien sur ma page Facebook, Djal_DJAL_, et vous avez les liens. Et voilà, je crois aussi Beurre FM, DJ Kim et tes équipes ont aussi mis le lien. Donc, on les trouve assez facilement sur Internet.
Absolument. Mille merci, Djal.
Merci à toi, Adil, pour ta bienveillance et pour ton invitation.
Mais c'est normal.
C'est toujours un vrai plaisir et je remercie énormément Beurre FM qui a toujours été là pour les belles et grandes causes. À chaque fois que j'ai fait appel à vous, vous avez été présent et ça en dit long sur cette radio qui est une radio proche de ses auditeurs et proche de ses communautés et de cette France plurielle. Merci infiniment encore pour vous et votre soutien.
Merci, respect Djal. Merci, à dimanche alors, si j'ai bien compris.
À dimanche, on va
mettre. À dimanche, 17h, Apollo Théâtre. Voilà, c'est noté. Merci Djal, on t'embrasse. À bientôt, 19h10. Allez, c'est parti, le face-à-face, jingle.
Les informés reviennent dans un. Les informés, le face-à-face.
J'accueille juste nos débatteurs influenceurs et on lance la pub. Bonjour, maître David Limeskid, comment ça va?
Ça va.
En pleine forme,
hein? Ouais,
vous avez rasé la barbe, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, bah, il fait chaud, donc j'ai besoin d'aérer ma peau.
D'aérer la peau, c'est bien, on en a besoin. Fawzi Lellouche, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir.
Moi aussi, un grand plaisir.
Ça va?
Oui, ça va.
Super.
Oui, très bien.
À vos côtés, Ahmed Chriad, bonsoir.
Bonsoir.
Le polémiste éditorialiste.
Ah, pourquoi?
Ouais, toujours.
Polémiste maintenant.
C'est ça, c'est le polémiste.
Ouais, c'est plus seulement éditorialiste.
On a les polémistes éditorialistes en télé, maintenant on a notre polémiste.
C'est bienveillant, donc ça va.
Clochette, c'est parti tout de suite. 01-53-48-3000, vous le savez, on se retrouve avec les débatteurs influenceurs. On lance la pub, on se retrouve ici même avec ce qu'il faut retenir d'Elisabeth Borne. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, le débat avant l'heure, vous le savez ici même, la tension monte. Évidemment, on parle de beaucoup de choses. Alors les informés, c'est avec Maître David Limeskid. Les informés, c'est avec Fawzi Lellouche. Et enfin, les informés, c'est avec Ahmed Chriad, mais également aussi au 01-53-48-3000. Vous êtes nombreux à nous écouter. Et je tiens d'ailleurs, je vais faire une spéciale dédicace à une grande fidèle auditrice qui s'appelle Naïma et qui est une fidèle auditrice du Dini dans le 93. Et j'aimerais plus particulièrement lui souhaiter un prompt rétablissement. Vraiment. C'est ce que je lui souhaite de tout mon cœur. Voilà ma chère Naïma et merci surtout pour votre fidélité. Maître David Limeskid.
Oui. Oui,
allez-y, vous êtes partant là, on y va.
On est partant, allez, tout de suite.
Alors, Elisabeth Borne souhaite avancer sur les priorités qui ont été fixées par qui? Par le chef de l'État Emmanuel Macron, d'accord. Elle s'est exprimée dans le cadre de cette réunion de travail sur évidemment plusieurs sujets qui nous alertent. La première principale priorité, c'est le pouvoir d'achat, ensuite santé, ensuite climat. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion de travail, Maître Limeskid?
Alors moi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? C'est simplement gagner les élections législatives, puisque les thèmes qui ont été abordés, climat, pouvoir d'achat, en fait, c'est un petit peu les thèmes de la France insoumise, de la NUPES. En fait, ils essayent de surfer en fait sur ces thèmes-là, notamment le pouvoir d'achat, pour évidemment gagner les élections législatives. Mais bon, le bilan d'Emmanuel Macron en 5 ans a démontré qu'il n'y avait pas une grande hausse du pouvoir d'achat. Je crois 0,7% pour 10% des Français les plus modestes et 2,2% pour les Français les plus riches.
Exact.
Donc le résultat du bilan Macron en termes de pouvoir d'achat, c'est pas terrible. Mais pareil pour le climat, puisqu'il n'avait pas retenu en fait les propositions qui avaient été faites par la Convention citoyenne. Donc, il nous met ça, à mon sens, de manière opportune, parce que, justement, ils ne veulent pas que la France insoumise, enfin, l'Union, la Nouvelle Gauche, gagne. Et je veux dire, voilà, c'est encore de l'opportunisme, puisqu'ils ont eu le pouvoir pendant 5 ans. C'est quand même incroyable.
Il y a Renaissance.
Oui, Renaissance, oui.
Bah oui, écoutez,
Renaissance,
c'est vrai.
Il ne suffit pas de changer le nom d'un parti politique, hein, ce sont les mêmes, qui sont membres de Renaissance.
Fawzi Lellouche. Non mais attendez, moi je veux vraiment qu'on se pose comme ça quelques minutes pour essayer de décrypter. Fawzi Lellouche.
5 ans, on a une belle expérience. Ils ont failli. Mm-hmm. Ils ont failli sur ces 3 sujets.
C'est 3 urgences?
C'est des sujets. C'est des sujets de société.
Oui.
C'est la principale.
Je te rappelle que les Gilets jaunes.
Principale préoccupation de l'ensemble des Français, des contestations sociales, des manifestations, du désordre qu'il y a eu dans les rues. C'est fait par rapport à ces 3 sujets, ce qui est la priorité de l'ensemble de la population française. Tous ceux qui y vivent savent très bien les difficultés qu'il y a pour mettre en place sur les thèmes de l'écologie, sur les thèmes du social, toujours les mêmes thèmes de toutes les façons. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris qu'ils prennent ces thèmes-là, parce que ce qui les intéresse, c'est juste d'avoir les voix pour avoir le pouvoir et continuer comme ça. Mais de ce qu'on a pu vivre pendant 5 ans, on n'attend pas grand-chose d'intéressant qui va en sortir. Et d'ailleurs, on ne sait pas.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, vous attendez rien de. Vous avez, il y a rien de grand chose qui va sortir de cela.
Ben évidemment.
Moi, j'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État, réinvestit. Justement, avait parlé de renaissance, avait parlé justement d'urgence. Et parmi les urgences, il parle de climat, il parle d'environnement, il parle de pouvoir d'achat.
Ben quand vous avez perdu la confiance de quelqu'un et on a pu voir pendant 5 ans ce qui
s'est
passé.
Faut lui redonner une chance.
Non, ben, là, c'est plus des chances. Il y a eu des mutilés. On l'a crié dans la rue. Aujourd'hui, je vois pas comment il pourra annoncer 3 thèmes aussi importants que ceux-là parce qu'on l'a assez crié dans la rue et on l'a payé assez cher. On nous a accusé de tout pour avoir dénoncé les besoins que la population avait en priorité. Les vrais sujets, c'était pas l'islamophobie, c'était pas des sujets qui nous concertaient pas tous les jours. C'était comment vivre décemment, comment protéger et donner un avenir à la planète, à notre environnement, et comment vivre purement, je dirais, parce que tellement.
C'est intéressant ce que vous dites, Fawzi Lelouch. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que il y a quand même quelque chose de sous-jacent dans ce que vous dites?
C'est-à-dire
que, est-ce qu'il n'y a pas un risque là de retrouver un acte 2, 3, 4 des Gilets jaunes?
Non, mais ils ont.
Sur la question du pouvoir d'achat.
Non, mais tel que vous avez connu le.
J'ai l'impression que la colère, elle est toujours là et qu'elle peut.
Elle est là. Bah, et demain, vous ne réglez pas votre problème, vous le trouvez devant vous. Donc le problème, voilà. Et aujourd'hui, les thèmes, c'est exactement les problèmes qu'on a soulevés. Tout ce qui était sous la table, on l'a posé sur la table. Ça a eu le mérite d'en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas un politique d'un parti qui reprend pas ses revendications et qui les...
Y compris Mélenchon? Mais Jean-Luc Mélenchon?
Oui, mais encore que... Oui, bien sûr, parce que ça reste pas moins des gens qui veulent accéder aux plus hautes fonctions et accéder à des postes. En attendant, moi je me rappelle, dès l'acte 4, ils étaient présents dans les manifestations. Ils ont soutenu, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils se sont positionnés sur des thèmes importants. Et la seule opposition, on peut dire, à l'Assemblée nationale, sans pouvoir avoir de succès, c'était bien ce parti, malgré qu'à plusieurs reprises on a eu des mots, parce que à plusieurs reprises on a souhaité ne pas être récupéré. Ce qui nous intéressait, c'est dans un premier temps de dénoncer leur impossibilité pendant ces 5 ans de pouvoir changer les choses. Donc on voyait pas pourquoi ils continuaient à jouer ce jeu de semblant de démocratie en étant député à l'Assemblée nationale sans rien pouvoir changer.
Et ben justement,
donc la seule opposition possible, c'était bien la rue. Et ce qui nous a un peu surpris et ce qui nous a un peu écœuré, c'est le fait qu'au bout de 5 ans, on reparte sur les mêmes positions, c'est-à-dire on a comme choix Marine Le Pen et Emmanuel Macron au deuxième tour.
Je vais donner la parole. Pardonnez-moi, Maître Levinsky, donner la parole à Amit Chriette, mais également aussi à ceux et celles qui nous écoutent partout en France. Ils sont nombreux, 01 53 48 3000. Justement, quel est votre sentiment, Amine Chriette?
Oui, non. Ce qu'on peut constater effectivement, c'est que le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, n'a pas repris ces thèmes-là.
Donc on voit très bien. Attendez, bien sûr qu'il les a repris. Attendez. Je suis désolé. On a entendu que ça.
Attendez, lors de sa conférence de presse et lors de son programme présidentiel, il ne proposait rien sur l'écologie, rien sur le pouvoir d'achat. Je vous mets au défi.
Je ne suis pas d'accord. Non.
Il avait chiffré à 55 milliards. Il avait fait une
dans le débat du deuxième tour.
Soyons factuels.
Attendez, dans le débat du deuxième tour, effectivement, puisqu'il y a eu des gens qui ont voté pour lui une tendance sociale, des gens, des électeurs écologistes, socialistes, etc., pour être contre Marine Le Pen. Mais à l'origine, dans la genèse de son programme, il n'y avait aucune question sur
l'écologie. Non, mais il a fait des propositions, je me rappelle, lors du débat du deuxième tour.
C'était quoi ces propositions?
Non, mais il voulait faire un échéancier, un cadencier sur l'écologie.
Non, mais il a fait quand même, il en a parlé, il a fait des propositions.
C'est la seule chose qu'il voulait faire.
Certes, très, très peu ambitieuse, mais il en a fait.
Et la retraite à 65 ans.
On va s'écouter, ça devient inaudible. Alors chacun... À tour de rôle. Terminé.
Donc, sur cette question-là, si vous voulez, on voit très bien qu'il y a une stratégie législative. En réalité, la majorité n'en a que faire, de ces thématiques-là. Et d'autant plus que il y a une chose qui est fondamentale et importante, c'est sur la question européenne aujourd'hui. On sait très bien que les traités, on ne peut pas changer la politique aujourd'hui sociale de la France. Donc, il va falloir soit sortir de l'Union européenne, soit modifier les traités de l'intérieur. C'est ce que proposent certains partis politiques. Je ne vois pas comment Mme Borne pourra changer les choses. D'abord, la question sociale et la question écologique profitera non seulement aux citoyens, mais aussi aux grandes entreprises. Et c'est ce que comprend pas aujourd'hui les libéraux. C'est que cette question-là aujourd'hui, il y a une urgence aujourd'hui écologique et sociale. Aujourd'hui, il y a, à force de laisser créer des thématiques, des problèmes, on les a laissés et ça a créé de nouveaux problèmes. Notamment sur la question de la délinquance, notamment sur la question de la drogue. On voit bien comment aujourd'hui la pauvreté crée des frustrations dans des quartiers populaires, elle crée des frustrations dans la ruralité et ça crée des nouveaux problèmes.
Oui.
On a l'impression dans ce pays-là qu'on lance des polémiques sur le burkini, sur le voile, sur le halal et qu'on ne traite pas les vrais sujets aujourd'hui. On voit très bien par exemple que M. Darmanin s'est positionné sur la question du burkini. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Gérard Darmanin sur la question de la sécurité, sur la question sociale? Moi j'aimerais bien entendre ces sujets-là. Qu'est-ce que fait aujourd'hui la majorité? On voit bien que Mme Borne en réalité juste... elle est en train d'écouter ce qu'elle écoute, en fait, au doigt et à l'œil, elle obéit au doigt et à l'œil à son maître Macron. Voilà, tout simplement.
0153483000, si vous êtes d'accord, Fawzi Lelouch, oui.
Oui, non, mais il est certain qu'elle obéit aux directives du président de la République, ça c'est certain. Et on se doute bien que les gens qui ont été nommés, c'est bien pour qu'ils exécutent un programme politique qu'ils ont. En attendant, il y a trois choses qu'on ne peut pas dissocier, c'est l'économie, le social et l'environnement. Et l'Europe. C'est ce que les Gilets jaunes... Et qu'est-ce qu'on a demandé depuis le début, c'était ces revendications.
Vous liez la parole, je sais.
Et c'était pleine et entière. Je me rappelle de Priscilla Ludowski, qui avait fait un courrier et qui avait été reçue par De Rugy et qui avait essayé d'aller voir plus loin pour essayer qu'il y ait des consultations citoyennes sur ces trois thèmes-là. Emmanuel Macron, à des fins politiques, il a retenu que l'environnement. Mmh. Ben, à la fin, ça a débouché sur quoi? Sur des grands, une grande farce aussi, parce que l'espérance des gens.
Mais vous l'aurez compris quand même, messieurs, on peut pas. Enfin, soyons quand même un minimum factuels. C'est-à-dire que la feuille de route d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, le président de la République, est très claire. Il a demandé à sa première, donc à la première ministre, donc à la première.
A-t-il le choix?
Attendez. Rapidité, efficacité, résultat. Trois mots d'ordre.
Mais il ne peut pas changer les choses puisque le cadre.
Trois mots d'ordre. Ça veut dire quelque part.
Attendez, les traités
européens. Ils ont tendu.
Je vous donne un exemple.
Ils ont tendu l'oreille.
M. Farkan, je vous donne un exemple. Sur la question du glyphosate.
Oui.
On a voulu l'interdire en France.
Oui.
On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des traités européens, il y a des normes. C'est une question assez simple. Regardez, juste prenez la question du glyphosate. Ne partez pas sur le pouvoir d'achat. Pourquoi aujourd'hui on a une Union européenne qui donne des directives?
Restons sur le.
Attendez,
les trois mots d'ordre, s'il vous plaît.
Oui,
restons sur le trois. Ne nous éparpillons pas. Voudrais, s'il vous plaît, qu'on s'attarde.
Mais
Hamid, je veux bien qu'on parle de tous les sujets. Mais là, l'urgence. Moi, je suis journaliste, on m'a interpellé sur un truc. L'actualité m'a interpellé sur un sujet du jour. C'est quoi?
Les trois
sujets. Sur le fait, trois urgences, trois mots d'ordre.
Indissociables, et évidemment, on ne peut pas omettre ces trois sujets. Parce que, politiquement, vis-à-vis de l'opinion publique, ce sera une faute politique que de les enlever. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
On prépare les législatives, là, c'est quoi?
Mais tout, on prépare l'avenir, les 5 ans.
Vous le disiez tout à l'heure.
Mais à continuer à endormir les gens.
Non, mais clochette.
Mais comment clochette? On voit le résultat de quelqu'un après qu'il l'ait fait, pas avant. Ça, c'est juste des prévisions. Voilà, ces thèmes, ces sujets, quelqu'un peut les ignorer aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait en 5 ans? Comment on va avoir confiance?
Les macronistes, ils sont ici, ils ont défilé ici.
Je tiens à signaler
défilé,
que...
un défilé et après.
Ils ont défendu un bilan.
D'ailleurs, je tiens à signaler que.
Je ne suis pas le représentant de qui que ce soit.
Faut être factuel parce que lors de la réunion de travail,
Maître Livinsky,
la première ministre a fait preuve en fait d'un certain cynisme parce qu'elle a demandé à ses ministres de faire des propositions sur l'hôpital. Alors qu'en fin de compte, pendant 5 ans, ils ont supprimé 10 000 lits.
En plus, ils ont suspendu
15 000 soignants qui
les
n'étaient
hôpitaux,
pas vaccinés.
Les hôpitaux sont malades. Hein.
Oui, mais ils sont malades.
Parce
oui,
que les directives européennes. Non, mais
les hôpitaux, ça va être très tendu cette histoire des hôpitaux.
C'est du cynisme. Pendant 5 ans, en fait, ils ont supprimé des lits d'hôpital.
Au lieu de réparer, ils ont augmenté.
Les directives européennes,
c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Au lieu de soigner, ils ont amputé. J'aime beaucoup cette expression.
Donc, il y a beaucoup de cynisme, en fait, dans ce qui est dit.
Justement, messieurs, nous allons continuer de parler de cynisme. Attendez, s'il vous plaît, le Quad 9, c'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Hey, c'est chaud dans les informés, Michel Thau. Bonsoir.
Bonsoir, cher Aldi.
C'est chaud, je vous dis, c'est chaud parce qu'on parle de cynisme, on parle que ça, voilà, tout va partir en vrille, vous le savez. Nous avons quelques représentants ici qui sont sur le plateau. Vous, votre biais d'humeur, justement, dans la continuité, c'est que fait donc Macron depuis qu'il a été réélu? On vous écoute, mon cher Michel Thau, le patron d'Opinion Internationale, mais également éditorialiste.
Absolument. Bah, écoutez, effectivement, je pense que tout le monde se pose la question, mais que fait le président de la République depuis qu'il a été réélu il y a plus d'un mois déjà.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il est en week-end prolongé à Briançon. Alors, c'est vrai que c'est le pont de l'Ascension et que tous les ans, il y va. Mais est-ce que c'est un bon exemple au moment où il y a une crise terrible au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de l'inflation, la crise en Ukraine ? Le président de la République est à Briançon. Qu'est-ce qu'il a fait depuis un mois ? Il a nommé un gouvernement en prenant un temps absolument infini. Tout cela pour cela, j'ai envie de dire, Elisabeth Borne, on savait déjà il y a un mois qu'elle était oui. parmi les principaux favoris pour être première ministre. Elle a pris son temps pour nommer le gouvernement. Ensuite, il y a eu l'affaire Abad. On n'entend plus parler du président de la République. Même sur la crise avec l'Ukraine, rappelez-vous, pendant la campagne électorale, il était omniprésent, Emmanuel Macron. Il appelait Vladimir Poutine tous les jours, Zelensky, le président ukrainien, tous les jours, quasiment. On n'entendait presque que lui. Et puis là, depuis qu'il est élu, silence radio. Alors, ça ne veut pas dire que le chef de l'État ne travaille pas. Hier, par exemple, il a eu une longue discussion avec le président turc Erdogan. Mais quand même, franchement, je pense que son silence, son absence sur la scène médiatique est dangereuse. Et résultat des causes, je vais vous dire, j'aimerais mettre en regard cette discrétion du chef de l'État avec quelque chose qui est totalement omniprésent. Mmh. Que ce soit à Paris, en région parisienne, j'ai vérifié auprès d'amis qui sont à Strasbourg, à Marseille et à Toulouse, on ne voit que Mélenchon sur tous les murs de France, sur les affiches de campagne électorale, devant les bureaux de vote, sur les panneaux d'affichage, on ne voit que les candidats de la gauche réunis avec Mélenchon en avant. Où sont les candidats de la Macronie ? On ne les voit pas. Et donc, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, comme une sorte de, je ne sais pas moi, de Jupiter ou de Dieu omnipotent, il se dit peut-être que ses candidats aux élections législatives vont être réélus comme cela, parce que lui a été élu il y a 4 semaines à l'Assemblée nationale. Non, je pense qu'il faut s'inquiéter de ce silence. Je pense que c'est, à mon avis, très risqué de sa part. Dans certaines études d'opinion qui vont bientôt sortir, c'est pas du tout gagné que la Macronie ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale dans trois semaines. Je m'étonne, et quelque part je désapprouve cette discrétion extrême du président de la République. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que, alors que les Français souffrent terriblement, alors qu'il y a la crise internationale, il devrait être beaucoup plus présent, il devrait être sur le terrain, comme il l'a été pendant la campagne électorale, et notamment, enfin, surtout au deuxième tour de la présidentielle. Et là, je ne comprends pas ce silence. Donc voilà, je voulais m'étonner de cette stratégie et dire qu'à mon avis, c'est une stratégie risquée qui, en fait, ouvre un boulevard à la gauche. Bon, la droite nationaliste, elle est totalement divisée, donc elle va prendre une grande claque aux législatives. Mais en revanche, c'est à se demander si Emmanuel Macron ne roule pas pour Mélenchon pour les législatives. Franchement, c'est la question qu'on va finir par se poser.
C'était votre coup de gueule, j'ai l'impression.
J'aime bien la fin.
Un petit peu.
Bon, merci Michel Taube. À vendredi prochain avec autant de plaisir.
Eh ben, c'est pareil pour moi.
Et j'ai envie de vous souhaiter, et j'ai envie de vous dire, évidemment, quelque chose de particulier. Je sais que votre fille, c'est son anniversaire. Eh bien, on lui souhaite un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, chère demoiselle, chère princesse, si tu nous écoutes.
Elle nous écoute. Merci beaucoup, chère.
On peut l'entendre. On va lui souhaiter en direct.
Allez, vas-y, nous. Vas-y, il y a Adil Farkan qui souhaite un bon anniversaire en direct devant des millions d'auditeurs.
Exactement. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La France t'écoute. Comment ça va?
Ça va.
Tout va bien?
Oui.
Bon, t'es contente?
Oui.
T'as le droit de demander à ton père tout ce que tu veux ce soir. Tu lui demandes tout. Voilà.
Merci, cher Adil. Et puis, encore une fois, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci, Michel Taube. Bon anniversaire. Profitez de votre fille. À très bientôt. 19h35, on marque la dernière pause pub et dernière ligne droite. On se retrouve pour parler de ces violences, attaques de l'extrême droite, justement contre le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. Figurez-vous que... Ça continue encore et encore. Évidemment. On va essayer de se poser un petit peu et d'en parler. Et puis après, on parlera des législatives, justement, comme le disait Michel Taube. On parlera de Cédric Viali. C'est pas un ancien macroniste ?
C'est un Davos qui danse très bien.
Non, moi, c'est un opportuniste plutôt.
Oh, ça cogne avant l'heure. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, le débat continue, vous le savez, autour de ce sujet, de cet édito concernant Michel Taube. C'est vrai, on se pose la question, avant de parler tiens, des deux autres sujets. C'est quoi votre sentiment? Vous partagez un peu celui qui est l'interrogation justement de Michel Taube qui consiste à dire c'est quoi le deal entre Emmanuel Macron, entre Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y en a pas un? Est-ce qu'il pourrait le laisser Premier ministre? C'est une question que tout le monde se pose, la vérité.
C'est surtout que ça soulève une question sans réponse.
Ben oui.
Voilà. Pour, alors.
Non. Comment ça, non? Prenons quelques secondes. Parlons-en. Allez, vas-y, dites-moi.
Écoutez, c'est très simple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force. Il y a une nouvelle dynamique avec la NUPES qui a été composée par l'opposition. Et donc, le président de la République, Emmanuel Macron, est en train de voir que ça lui échappe. Les élections législatives sont en train d'échapper à cette majorité-là. Ils ont essayé de changer le nom du parti politique, mais il y a une dynamique aujourd'hui. Il y a des militants sur le terrain, il y a une dynamique. On sait très bien que la NUPES aujourd'hui a pris les thèmes principaux, qui sont la question sociale, économique et écologiste. Et donc, Emmanuel Macron a raté le coche. Il a beau nommer Elisabeth Borne, Elisabeth Borne reste une libérale. Du moins une social-démocrate.
Tout le monde en fait, elle a une image de socialiste.
C'est une personne qui a cassé le code du travail.
C'est une libérale.
C'est une personne qui est pour à 65 ans l'âge de la retraite. Donc, ça ne fait pas d'elle une progressiste.
Maître Limenskid.
Non,
les
en fait.
Les gens ne sont pas dupes.
C'est possible, ce deal,
Non.
Je délire complètement.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Qu'on m'explique quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron.
Aucun.
Il a gagné l'élection présidentielle. Son souhait, c'est d'avoir une majorité de députés qui soutiennent évidemment l'action de l'exécutif. Parce que si Jean-Luc Mélenchon en fait était nommé Premier ministre, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon aura une majorité de députés pour le soutenir. Mais en tout cas, l'action d'Emmanuel Macron en tant que chef d'État, en tant qu'autorité exécutive, serait complètement paralysée, à part peut-être dans le domaine de la défense et dans le domaine de la politique étrangère.
Bon,
mais sur donc, admettons Elisabeth Borne là, elle saute après les législatives, oui. Et puis on met par exemple Mélenchon.
Oui.
C'est quoi les trois directives qu'il devra mettre en application?
C'est son programme à lui.
Oui, mais quand vous parlez d'un programme, c'est des revendications de la rue, des gens dans leur quotidien. C'est-à-dire, c'est avant tout les votants qui ont réclamé, c'est la population qui a réclamé qu'on s'intéresse un peu plus à leurs besoins plutôt qu'aux besoins des élus. Moi, je suis désolé, mais les revendications, elles sont pas tombées dans les oreilles de sourds. On a posé tout sur la table, aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer.
Hamid,
et pendant 5 ans, il a jamais répondu.
C'est vrai,
aujourd'hui, a-t-il le choix de faire autrement que de répondre? Parce que personne ne peut l'ignorer. Si tu, à moins que tu détournes un peu comme il se passe sur l'islamo-gauchiste ou des conneries comme ça, ou le burkini ou des trucs comme ça, oui, t'arrives à gagner du temps et à détourner des vrais problèmes de la société, de ce que les gens attendent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix. Le gars, il a été réélu pendant 5 ans. Je vois pas comment il pourrait faire fi de ce qu'on a demandé et qu'on a eu tant de mal à faire appliquer et qui n'a toujours pas été appliqué. Eh ben, que ça soit Mélenchon.
Faut pas être naïf, en fait.
Maître Limenskid.
Pour le pouvoir d'achat, il va faire des mesurettes. Mais rien de comparable avec le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Donc vous donnez raison, finalement, à Fawzi Lelouch.
Non. Parce qu'il va rien faire, en fait.
Lui, dès le départ, il vous dit qu'il va se retaper 5 ans comme les 5 années qu'on vient de vivre.
Autant pour moi, c'est ce qu'il a dit.
Ah, voilà, c'est exactement.
Oui, je suis complètement d'accord.
Amit Friette.
Pour venir ce que dit Fawzi, mon camarade, c'est que. À la différence, c'est que effectivement, lorsque Jean-Luc Mélenchon aura une majorité,
c'est un coco, mon camarade.
Mais guitare.
Non, je rigole, je vous taquine, Amit Friette. Soyons taquins, c'est vendredi soir.
Mais c'est un polémiste, hein, faut pas oublier.
C'est un polémiste.
Lorsque Jean-Luc Mélenchon aura la majorité, effectivement, il pourra mettre en place sa politique. Sa politique, elle consiste à quoi?
Oui.
Trois choses directes: le SMIC à 1 500 €.
Tout à fait.
La retraite à 60
ans.
Un peu plus. 1500
euros. Non, c'est 1 500 €, il a raison.
1 500 €, la retraite à 60 ans et d'autres réformes sur la planification écologique.
Oui.
La planification, terme qui a été repris par Emmanuel Macron. Donc
oui, mais il n'a rien fait pendant 5 ans.
Il n'a rien fait, exactement. Donc on voit bien aujourd'hui comment cette majorité-là peut effectivement changer. Et c'est la mise en place d'une 6e République avec effectivement.
Mais il pourra pas.
Avec Macron, il n'y aura jamais la retraite à 60 ans tant qu'il sera au pouvoir.
Avec une cohabitation.
Non, mais la 6e République, il ne pourra pas parce que.
Non, mais laisse-moi juste terminer.
Il n'a pas la majorité au Sénat.
Il pourra.
Vous avez le droit à triple clochette. Vous laissez le finir, s'il vous plaît.
Avec une cohabitation, effectivement, et un rapport de force. Je rappelle que tu es avocat juste
juriste,
le chef de l'État est chef des armées. La politique étrangère est gérée par le Premier ministre et la politique sociale du pays est gérée par le Premier ministre. Donc Emmanuel Macron sera obligatoirement...
Il vous tacle là, Vous avez compris, mon cher maître, attention.
De composer avec le nouveau Premier ministre.
Non, mais il n'y aura pas de 6ème République, même si Mélenchon gagne.
Non, mais une certaine forme de 6ème République.
Puisqu'il faut 3 cinquièmes
de
l'Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès pour pouvoir faire passer une réforme constitutionnelle. Donc c'est impossible.
Il n'y aura pas de 6ème République, mais nous serons dans une sorte de transition de 6ème République. Puisqu'il y aura des référendums locaux, des référendums régionaux, des référendums nationaux qui vont être mis en place par effet, le RIC aussi.
Non, mais référendum national, il y a que le président de la République.
Par la majorité. À partir du moment qu'il y a une majorité.
Qui peut mettre en œuvre un référendum.
Il y aura effectivement un changement de régime.
Techniquement, c'est impossible.
Et pourquoi pas que la majorité propose des amendements
Allez,
au niveau de la Constitution.
J'aimerais qu'on parle, juste simplement, s'il vous plaît, il faut qu'on avance les sujets, évidemment. Il y a Papendaye, tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui continue d'ailleurs avec ses avalanches, ses cyclones de propos racistes. Ouais, je voudrais qu'on en parle. Non, mais je voudrais juste qu'on, voilà, quelques minutes quand même, qu'on fasse un tour de table, parce que quand même, islamo-gauchisme, méritocratie, violence policière, etc. Papendaye, il en prend plein la gueule quand même.
Ouais, non ? Bah écoutez, moi je trouve qu'il fait l'objet de la part.
Maître les mesquides.
De la part de l'extrême droite. Et il n'y a pas que l'extrême droite, il y a la droite aussi, parce que Éric Ciotti fait partie
la
des Républicains. Et qu'est-ce qu'il a dit,
Éric Ciotti ?
Il a dit que la nomination de Papendaye était une nomination terrifiante. Donc voilà.
Oh, mais moi, ça, c'est la droite réac.
Oui, non, mais il fait partie des Républicains. Oh, le patron des Républicains.
Il y a plusieurs branches.
Non, mais le patron des Républicains ne l'a pas contredit.
Il y a plusieurs branches.
Voilà. Non, mais je trouve ça honteux, en fait, qu'il fasse l'objet d'un acharnement raciste à son égard parce qu'il est noir, faut dire ce qu'il est. C'est pas par rapport à ses idées, parce qu'il y a eu un papier dans Le Monde, je crois, aujourd'hui,
de Romain Geoffroy. France.
Voilà, tout à fait. Non, du Monde, qui a, en fait, démonté une par une les attaques d'islamo-gauchistes, de pro-flics, etc., dont il faisait l'objet. Moi, je trouve, en fait, c'est inquiétant que cette parole soit aussi libérée. Parole de l'extrême droite et je rappelle également de la droite. Et moi, je m'étonne en fait que le ministère de l'Intérieur n'ait pas du tout réagi à ce sujet.
Il est macroniste,
ça, c'est exactement. Vrai.
Mais Fawzi Lelouch.
Je dirais, on n'est pas tellement surpris.
Oui.
Ils sont dans leur rôle. Ils continuent leurs habitudes à discriminer.
L'insulte, c'est pas un rôle. Hein.
Moi, je suis désolé. Ouais, mais il y a pas que ça. Ils sont dans leur rôle parce qu'ils le font tout le temps. Ils ont toujours agi comme ça.
Oui, exactement. Mais là, c'est quand même terrifiant.
Non, mais c'est du racisme.
Oui, mais c'est terrifiant parce que la parole est libérée.
Moi, je trouve ça quelque part.
De la part de politique, c'est
clairvoyant parce que ça montre le vrai visage de ces gens-là.
Ah, voilà. Ça, c'est clair.
Et ben, justement, c'est exactement ce que la population française, en règle générale, ne veut pas. Et pourtant, ils en parlent ouvertement, ils alimentent et polémiquent
parce qu'ils sont
sur des sujets qui ne veulent rien dire. Je me rappelle le discours qu'il a eu, justement. Avant d'être nommé.
Papendaye.
Exactement. Oui. Il a parlé d'islamo-gauchisme que ça ne voulait rien dire. Encore aujourd'hui, moi je dirais, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et surtout qu'aujourd'hui, quand on parle de gauche, on parle de droite, quand on voit les gens qui ont été nommés depuis 5 ans et cette politique, de gauche, de droite, à la fin, c'est juste par intérêt. Les décisions qui sont prises par les politiques qui sont nommées parce qu'on arrive
de
plus à
droite,
faire la
intérêt,
vous arrivez à faire la différence entre la gauche et la droite sur les 5 dernières années.
Évidemment.
On a quand même des éléments.
Et je me rappelle de Hollande qui a nommé Valls et Valls, comment il a embêté.
Ah oui, si vous parlez sur ce registre, oui.
Mais c'est tous les registres.
Évidemment.
Alors, quelle différence on peut faire ? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui ? Le seul sens qu'on peut.
Vous posez là une vraie question.
C'est peut-être dans le projet. Peut-être que Mélenchon est en train de mettre en place en se mettant d'accord. Et je redis, pourquoi dans ce cas-là, pas s'être mis d'accord avant les élections ? Pourquoi ?
Moi, je suis
aimé qu'ils se mettent d'accord.
On est en direct. Et tout ce qui se dit ici, l'auditeur, évidemment, le capte. Et vous, en plus, quand vous êtes un personnage public avec et vous avez incarné les Gilets jaunes, ils vous écoutent, les auditeurs.
Mélenchon est contre Emmanuel Macron.
Moi, la différence, c'est que je.
Mais chacun son point de vue.
La différence, c'est que je ne trompe pas les gens. Je ne suis encarqué nulle part. Je dis ma vision d'un simple citoyen avec l'expérience de vie que j'ai et ce pourquoi je me suis battu dans la
rue. Et pourquoi vous ne présentez pas Fawzi
Parce que j'ai jamais
Fawzi
Lelouch.
Fawzi, président.
Non mais attendez, il y a les législatives. Pourquoi vous ne faites pas les législatives ? Pourquoi vous ne vous présentez pas ?
Peut-être pour en 2027.
Non mais pour quelle raison vous ne le faites pas ?
Ou pour les européennes.
Parce que c'est comme
voilà
ça.
Voilà la nouvelle. Voilà.
Mais parce que le problème est systémique.
C'est parce qu'à mon avis, ceux qui vont se présenter, ceux qui vont nous représenter, vont rien changer aujourd'hui.
Et faites-le pour changer.
Non, mais il faut tout revoir. Hein.
Non, mais c'est
pas, bah, faut tout revoir, mais, mais tout revoir, ça veut dire avec tout le monde.
Alors, Amine Chria,
et le problème, c'est pas possible aujourd'hui.
Là, avant la question, parce que j'ai perdu.
La preuve, juste pour preuve.
Fawzi Lellouche, il faut s'emparer du pouvoir, ne l'attendez pas.
Ah, oui. Ah, mais moi, je m'empare de. La rue, on s'en est emparé, on nous l'a pas donné. Hein.
Et bah, le pouvoir, c'est aussi la politique.
Les gens, est-ce qu'ils veulent changer la société? Bah, quand on voit qu'ils ont réélu, au deuxième tour, on
s'est trouvé aussi. De la même façon. Emparons-nous des médias.
Alors, attendez, allez-y. Certains se sont fait élire ici. Hein. Allez-y.
La question, j'ai perdu le fil.
Bah, Pape Ndiaye, c'est les insultes.
Ah oui, pardon.
Vous
oui,
perdez le fil avec ça, vous?
Oui, excusez-moi.
Ça l'a pas choqué.
Et donc, ça l'a pas choqué. Non, attendez, plus normal, quoi, tranquille.
Pardon.
On va en rendre l'antenne, alors, les amis.
Vous avez parlé, effectivement, de la droite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de Ciotti à Marine Le Pen, il y a une continuité de droite. Il n'y a pas d'extrême droite ou de droite réactionnaire. C'est une droite raciste. Et il y a une continuité. On voit bien aujourd'hui pourquoi Valérie Pécresse a perdu la primaire, parce qu'aujourd'hui, la majorité aujourd'hui des républicains, pseudo-républicains, sont d'extrême droite en réalité. Ils n'ont pas cessé de stigmatiser les Français de confession musulmane, les minorités, les quartiers populaires, et ils s'attaquent toujours aux...
Giovanni, quel réalisateur, voilà, me dit, il faut rendre l'antenne.
Donc, à un moment donné, si vous voulez, il va falloir traiter des vraies questions sociales et économiques dans ce pays.
Merci. Vous revenez, Fawzi Lellouche, hein.
Avec plaisir.
Bah oui, vous revenez. Hein. Il a fallu aller le chercher.
Non, mais souvent, le vendredi, je travaille, donc je ne suis pas disponible.
C'est la France qui se lève.
Et bien, quand vous êtes disponible, soyez le bienvenu. Merci à Maître David Limeski.
Merci. C'est la France
à la réalisation. C'est ça. À la réalisation, c'était Giovanni.
Merci Giovanni.
Bilal Nedman, dans une poignée de minutes, avec son Time Sport et tout le programme concernant qui vous attend donc pour le week-end. À lundi, prenez soin de vous. On ne lâche rien, les amis. Comme dit Fawzi. C'est vrai, non?
Exactement.
À lundi, sans faute. Donc, comportez-vous bien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.